Radio Bac numéro 27 avec comme invité, je le disais tout à l'heure, Bertrand Malquier. Alors, vous avez deux casquettes, une, si je puis dire, qui est un peu plus politique, c'est-à-dire secrétaire général du mouvement Nouveau-Narbonne, mais on tient, je crois que vous tenez à l'appellation du mouvement, et vous reviendrez, vous nous expliquerez tout ça. Vous êtes aussi premier adjoint à la mairie de Narbonne. Alors, on vient de parler d'un dossier qui concerne cette mairie, le Grand Castelloux. Quel est votre regard, en tout cas, ce que vous en savez aujourd'hui, puisque ça semble très évolutif, Bertrand Malquier?
Alors aujourd'hui, on est dans le financement d'un projet qui est remarquable. Il est remarquable à double titre. D'abord parce que il est partenarial. Michel Santo l'a rappelé, financement pour tiers de l'Europe avec les fonds FEDER, la région qui est porteuse financièrement et qui a réuni autour de la table les différents partenaires, le Conservatoire du Littoral, la ville de Narbonne, le Grand Narbonne et le département sur la partie investissement. Donc première partie, ce côté partenarial qui est intéressant dans le travail. Et deuxièmement, le sujet, la matière, c'est-à-dire qu'on va valoriser le Grand Castelloux, qui est un site remarquable. Vous le disiez tout à l'heure, la petite Camargue narbonnaise, Didier Mouly, qui est très attaché au Grand Castelloux. Vous en parlerez, hier on en parlait encore, il vous parlerait de cette petite cabane depuis laquelle vous observez faune et flore local, et en arrière-plan, en fond, vous voyez l'ensemble architectural de Narbonne avec la cathédrale, quelque chose d'assez remarquable. Donc l'ouvrir à l'écotourisme, dynamiser notre territoire et donner un écrin nouveau au PNR pour valoriser son travail et le recentrer au milieu de son objet.
Alors on le voit, cet ensemble fédéré ou que l'on tente de fédérer a des avantages mais aussi des inconvénients, puisqu'à un moment il y a toujours un financeur qui traîne les pieds.
C'est souvent la problématique pour des raisons diverses et variées. Je pense que l'appui de la région et on travaille de façon très pragmatique avec Madame Langevin, mais également Carole Delga qui est forcément derrière ce projet. Je pense que la raison va l'emporter. La mesure du projet est réelle. Elle a été entendue par tout le monde. Je pense que maintenant, il s'agit de détails. Et je ne doute pas de l'intelligence collective pour rattraper le wagon et boucler cette question de financement pour pas perdre les fonds européens et pour aller un peu plus vite, hein, puisque le jury a pas que la ville, hein, la région, tous les partenaires ont sélectionné le maître d'œuvre qui a réalisé des projets, enfin des esquisses remarquables qui plairont et qui donneront un dynamisme nouveau à ce secteur, qui permettront de le faire connaître à l'extérieur, mais aussi aux Narbonnais, qui, je pense, ne le connaissent pas parfaitement.
Oui, bon, rassurez quand même les auditeurs, le projet reste encore sur les rails pour le moment.
Le projet est forcément sur les rails.
Bon, alors on va faire un tour d'horizon de la ville avec les grands dossiers, Bertrand Malquier. On va parler de l'aréna, évidemment, vous vous en doutez, mais peut-être un mot également sur le parc des sports qui fait, je crois que ça a été le premier grand équipement d'Hubert Mouly dans les années 70, donc il a un certain âge, il a besoin de réfection. La pelouse, l'éclairage, paraît-il, à un moment d'ailleurs où le club, lui, a de sérieux problèmes qui sont autres que celui de la pelouse.
Bon, il y a deux choses. Au niveau du patrimoine narbonnais, effectivement, le stade aujourd'hui est vieillissant. Et c'est un stade qui revêt une dimension qui dépasse les frontières de Narbonne. Il représente avec Assayer l'histoire du Racing. J'y reviendrai peut-être dessus, si vous le voulez. Il faut préparer un plan d'investissement pour rénover alors la pelouse qui est malade, l'éclairage qui est défaillant et l'accessibilité qui est également défaillant. Donc il faut véritablement programmer un plan pluriannuel d'investissement pour mettre ce stade à la hauteur de son siècle et de son époque.
Pour la pelouse, ça semble engagé déjà.
C'est engagé. La pelouse, le sujet sera... Alors on connaît le diagnostic a été fait, on connaît la problématique. Donc on peut y apporter une réponse. Maintenant, il faut voir ce stade comme, je vous l'ai dit, un équipement intercommunal. C'est le plus grand stade de notre territoire. Il faut réfléchir à comment travailler pour le rendre tourné vers l'avenir, pour le rendre opérationnel, pour accueillir des manifestations sportives de plus grande ampleur. On a accueilli l'équipe de France, les jeunes, peut-être les féminines demain. C'est un stade qui peut revêtir un caractère intercommunal, pourquoi pas.
Alors, du parc des sports aux racines, elle a bon dos, la commune, elle sera l'agglo, elle sera peut-être pas toujours d'accord. Entre le parc des sports et le racing, forcément, il n'y a qu'un pas. Bon, alors on sait qu'un club, c'est un club, le racing est le racing, ça n'est pas la mairie, mais c'est quand même d'une certaine façon d'abord un patrimoine, c'est un peu comme Notre-Dame, vous le disiez à l'instant, Bertrand Malquier. Donc la mairie a quand même un rôle à jouer, qui est limité, mais un rôle à jouer. Comment le ressentez-vous, ça ?
Surtout que la mairie soutient fortement la formation, en fait. Donc l'association qui gère la formation, effectivement, des jeunes joueurs, dont le président est toujours du Cosinus, qui a mis...
Qui est démissionnaire. Alors comment le voyez-vous, Bertrand Malquier ?
La ville a toujours été le partenaire numéro un de son club de rugby. C'est le club de rugby, qu'on soit amateur ou simple spectateur occasionnel, c'est véritablement un fil conducteur qui a traversé les temps. On fêtera les 40 ans du titre de 79 dans quelques semaines. Il faut continuer à valoriser cette image et travailler sur le futur. Ça fait 10 ans que le club s'enlise dans les bas-fonds de la Pro D2, maintenant Fédéral 1, dans le haut du tableau. Il y a eu un travail de fait par les bénévoles qui est extraordinaire. Il y a véritablement un cœur supporter à Narbonne. Et il y a une réalité qui s'impose à tous, c'est la défaillance du tissu économique. On n'a pas de grands mécènes, on a beaucoup de Yaka Faucon, mais on a dans la réalité peu de matière financière pour apporter au Racing les ambitions qui sont celles naturelles des supporters. Aujourd'hui, la ville est toujours partenaire. C'est 600 000 euros qui sont donnés au rugby sur Narbonne. C'est également le prêt, la mise à disposition du stade, la mise à disposition d'équipements, tout ce qui est fourni en matériel, en termes humains au Racing. Et c'est un investissement important pour la commune. On n'a pas réduit la voilure depuis la Pro D2. On a forcément la prestation de service qui accompagnait la subvention a été supprimée. Mais la ville est toujours derrière son Racing. Maintenant, c'est une question de gouvernance. Je ne pense pas que dans les prochaines semaines et d'ici l'Assemblée Générale qui a été donnée par, transmise comme information par Jean-Louis Cosinus, il y ait mécène qui tape à la porte du Racing et qui veuille prendre le club. On a un tissu économique avec un sponsoring qui est limité. De mémoire, c'est autour de 1 million d'euros de sponsoring local. Des grandes entreprises se sont désengagées dans le Racing. Il faut aujourd'hui se mettre autour de la table raisonnablement, trouver un budget en équilibre pour espérer jouer les premiers rôles en Fédéral 1. Le passage et le cap dans la professionnalisation et le retour en Pro D2 reste difficile. Il faut être raisonnable. Il y a la passion et la raison. Il faut être raisonnable. Et je pense qu'on aura des difficultés à ce que les entreprises puissent venir soutenir le Racing.
Voilà. Donc c'est une longue histoire, longue et difficile histoire qui se profile en ce qui concerne le Racing. Il faut le dire clairement. Parmi les sujets polémiques, très rapidement, mais j'y reviens un petit peu, il y a celui du crématorium. Alors, du double crématorium. Comment avance le projet de la ville? Il semble qu'il est un peu pris de vitesse à ce jour, peut-être je me trompe, un peu pris de vitesse celui du Grand Narbonne.
Alors effectivement, on n'a pas vu passer dans le budget primitif, en tout cas du Grand Narbonne, les investissements nécessaires à la réalisation du crématorium communautaire. Je crois qu'il y a eu des études, un budget qui a été dédié aux études d'implantation et de faisabilité, mais pas sur l'investissement. Pour la ville de Narbonne, c'est les marchés publics ont été lancés. On a eu l'ouverture des plis en commission il y a 3 semaines peut-être, 15 jours, 3 semaines. On a eu 2 candidatures et on va rentrer certainement en phase de négociation dans les prochaines semaines. Donc le sujet continue d'avancer et en tout cas, on est dans les délais que nous nous étions fixés pour la l'analyse des offres et ensuite le choix du délégataire.
Oui, donc le marché est en cours.
Le marché est en cours, et plus qu'en cours, puisqu'on est en plein cœur du marché.
Les plis ont été ouverts.
Et... Les plis de candidature ont été ouverts, et donc les deux candidatures ont été reçues. Deux candidatures ont été acceptées. Maintenant les offres, et on va rentrer dans la phase dite de négociation de marché public. Mmh.
Alors évidemment, le grand morceau du moment, c'est l'ARENA, avec là aussi l'avancement du dossier, du chantier, mais ses difficultés. Alors peut-être besoin d'explications, parce qu'on s'aperçoit, et je m'en suis aperçu moi-même également en visitant le chantier il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens de Narbonnais ils comprennent pas grand-chose quand on leur dit « bon, c'est illégal, c'est maintenu jusqu'au 31 août, mais qu'est-ce qui va se passer après le 31 août ?» Est-ce que vous pouvez, Bertrand Malki, apporter quelques éclaircissements sur cette procédure complexe?
L'ARENA, malheureusement, vit de beaucoup de polémiques, de fausses nouvelles, et c'est regrettable parce que, je le rappelle, c'est le premier investissement départemental, 24 millions d'euros, qui vont générer un rayonnement, une attractivité nouvelle, une plus-value sans conteste pour notre territoire. Et aujourd'hui, eh bien, les mauvaises langues, les acteurs de la scène politique, de la politique politicienne, essayent de discréditer et de jeter un voile trouble sur ce qu'est l'ARENA. On entend tout. On entend tout depuis cette décision rendue par le juge administratif. La réalité, c'est que l'ARENA sera dans les temps. Le délégataire a été choisi. Les premiers concerts auront lieu. Le programme est en train de s'étoffer, d'ailleurs, avec quelque chose d'assez pluriel. Il y a également une date qui a été fixée par le juge administratif, qui est le 31 août. Aujourd'hui, le travail qui est fait par les services de la ville, c'est de recenser où en sera le chantier à la date qui nous a été fixée par le juge administratif. On recense les travaux et on va bien faire passer à la procédure des marchés publics pour créer des lots en fonction de ce que l'architecte... Alors on va bien évidemment faire également une procédure de marché pour avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour nous permettre de faire cet état des lieux projeté au 31 août, faire dans le même temps, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, une procédure de lancement de marché public d'attribution de ces lots qui seront le solde des travaux pour amener le chantier à une fin qui était naturelle, qui se terminera donc au début du dernier trimestre de l'année 2019.
Oui, en langage très simple et non juridique, ça signifie qu'au 31 août, on verra où le chantier en est, et c'est là où il faudra un nouvel appel d'offres pour finaliser, pour terminer le chantier.
Sauf que tout se fait en temps masqué, c'est-à-dire qu'on est actuellement en train de travailler le 31 août, ce n'est pas un stop. Le chantier va s'arrêter dans la configuration administrative dans laquelle il est aujourd'hui pour reprendre au 1er septembre dans une configuration nouvelle. Maintenant, il n'y a pas de retard. Alors, certains ont lancé de fausses rumeurs sur ce chantier. La décision du juge administratif s'entend. Le juge administratif retient l'intérêt général. Vous-même, monsieur Santo, quand vous donnez un exemple, vous prenez... c'était il y a 15 jours, vous prenez l'exemple du Pandore. Alors, je pense que c'est Gustave Nadeau, là, le Pandore passif, le gendarme qui ne verbalise pas le conducteur qui passe au feu rouge. Bon, j'entends votre exemple, mais ce n'est pas la réalité de la décision du juge administratif. Le juge administratif, ou le gendarme en l'occurrence, commet une faute. Qu'est-ce qui nous oppose dans votre exemple et dans le cas d'espèce? C'est que le chauffard met en danger sa propre vie, certes, mais la vie d'autrui. Il crée un préjudice ou un potentiel préjudice. Nous, dans le choix du marché, on ne crée pas de préjudice. Et le juge administratif le souligne, il n'y a aucun préjudice. C'est même le marché de conception-réalisation qui permet d'avoir une maîtrise budgétaire parfaite ou quasi-parfaite de l'ARENA. On n'a pas créé de préjudice. C'est un choix qui a été fait, que l'on soutient encore, parce qu'il y a une technicité. Quand vous pensez que sous la gouvernance précédente, pour un marché de crèche, un marché de conception-réalisation a été choisi par les mêmes qui nous attaquent sur ce choix de marché. Pour faire une crèche à 2,5 millions d'euros, ils sont membres du jury, monsieur le candidat Sainte-Cluc ou monsieur Ortiz sont membres de ce jury au moment de la conception-réalisation de la crèche. Il n'y a aucune technicité dans la conception d'une crèche. le marché public aurait pu être fait. Sauf qu'ils ont voulu le faire très rapidement et sont passés certainement par ce marché de conception-réalisation. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, il y a une véritable technicité qui est liée à l'emprise foncière, à la réalisation de ces bassins de rétention. Il y a 3 bassins de rétention parce que les gassurales est un secteur assez particulier au niveau de l'inondabilité. Donc, on a jugé, et on le pense encore, que la technicité nous permettait de recourir au marché de conception-réalisation, ce qui n'est pas forcément le cas. Par contre, nous n'avons pas intenté une action devant le juge administratif au moment où on était dans l'opposition par rapport au marché de la crèche d'Orteneuve.
C'est une erreur.
Parce que nous estimions que l'intérêt général, c'était le besoin de la crèche. Non. Il n'y a aucun préjudice à ce que le marché de conception-réalisation ait été choisi.
Mais dans ce cas de figure-là...
Oui, alors très rapidement.
Mais dans ce cas de figure-là... Vous êtes en train d'expliquer, de nous dire que tout le droit aujourd'hui sur les marchés, tout le droit, notamment celui qui institue la possibilité de marché conception-réalisation, n'a pas lieu d'être. Et que à partir du moment où un élu comme vous, par exemple, décrète que c'est un marché qui a une technicité particulière, eh bien, effectivement, on le fait. Sauf que, monsieur Malquier, moi, en 2016, j'ai fait un billet dans lequel j'exposais toute la jurisprudence qui a été utilisée par le juge aujourd'hui.
Voilà. Point. Voilà. Bon, mais je crois que c'est un débat difficile dans la mesure où c'est le juriste contre le politique. Et je crois que c'est un débat qui est éternel. D'ailleurs, et qui sera éternel. Et en tout cas.
Je soulignerai juste que c'est une décision du juge administratif, sous réserve de l'interprétation d'un juge administratif d'appel, par exemple.
C'est un jugement. Alors, pour cet aréna qui reste quand même donc le dossier d'avenir, qui sera la grande salle de spectacle de Narbonne, là encore, vos opposants que vous avez mentionnés, M. Malquier, continuent alors à vous attaquer sur, si je puis dire, les intentions, en disant que ça sera forcément un fiasco financier. Votre réponse, par exemple, au conseil municipal a été de dire « Nous faisons un pari sur l'attractivité de la ville de Narbonne ». Alors là encore, c'est le politique contre un autre politique, peut-être.
C'est le gestionnaire contre la mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un pari. Le pari, c'est de dire, de se réfugier en disant, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Ils ne seront pas là dans 20 ans. Je rappelle que l'histoire de Narbonne est étroitement liée à celle du mouvement pour lequel je suis secrétaire général. On a construit Narbonne par les grands équipements. C'est une vision un peu keynésienne, peut-être, de la gestion. Mais en tout cas, ces grands équipements ont nourri la réputation de Narbonne au-delà de ses frontières. Ce grand équipement, cette aréna, aujourd'hui, c'est un succès commercial, puisque les réservations ont commencé, le délégataire a été choisi bien en amont, on l'a bien préparé ce dossier, L'aréna va être le dernier aréna de France, et l'aréna dans lequel le spectateur va être le plus proche du spectacle, du chanteur, du magicien, de celui qui occupera l'aréna.
De par sa configuration
physique. Mais c'est également un aréna où la DSP, le délégataire, l'exploitant, qui est la société Espace, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, M. Saint-Cluc, qui de nouveau dans la polémique avait annoncé que la société Fimalac, la société mère de Espace, était une société défaillante financièrement, il nous avait sorti des extraits de comptabilité qu'il avait trouvé sur Internet, a fait une promesse de don de 10 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris, dont le PDG a fait cette annonce dans la presse ce matin. Parenthèse refermée, c'est un projet qui forcément va nourrir le commerce narbonnais, les restaurants, les chambres d'hôtes, pas que du narbonnais, du territoire dans son ensemble. Aujourd'hui, on est dans un schéma où celui qui va venir choisir un spectacle à l'aréna va peut-être profiter d'aller déguster des huîtres à Gruissant, va aller sur d'autres territoires, une chambre d'hôtes au Somail peut-être. C'est un rayonnement qui va dépasser nos frontières et au niveau commercial, la réussite est au rendez-vous puisque le délégataire nous a annoncé qu'il était au-dessus des objectifs qui s'étaient fixés en termes de réservation.
Voilà, et on va...
D'ailleurs, c'est un équipement de nature intercommunautaire.
Oui, exactement. Alors justement, c'est une question, mais très très rapide là-dessus. Il faudra qu'on conclue sur l'avenir, bien entendu, puisqu'on entre en année électorale. Vous-même avez soulevé le problème en conseil communautaire. Cette structure à l'avenir devrait logiquement être gérée par l'agglomération. Vous persistez, j'imagine.
Je persiste parce que, déjà sur l'investissement, la ville de Narbonne, on a eu une gestion rigoureuse. C'est-à-dire qu'on a voulu un désendettement progressif sans sacrifier les services publics aux Narbonnais. C'était la volonté de Didier Moulier. On l'a respecté. On a exécuté le plan tel qu'il nous l'avait été présenté aux Narbonnais. On a désendetté la ville. On est passé de 62 millions à 52 millions pour pouvoir autofinancer en grande partie cette aréna. On regrette que ce tour de table n'ait pas eu lieu avec l'agglomération de façon partenariale, parce que on est dans quelque chose d'un peu particulier. Ce temps de mandat était très particulier pour ça. Maintenant, sur la gestion de l'aréna, aujourd'hui, on est dans une... Alors là aussi, il ne faut pas confondre. On nous dit, vous versez une subvention. On n'est pas dans une subvention. On est dans l'achat d'une prestation de service à une société de droit privé. Le délégataire, la société Espace. En contrepartie des 650 000 euros que nous donnons à Espace chaque année, nous avons 8 journées pour la ville, pour nos seniors. Les choix seront faits pour occuper les 8 journées qui sont dédiées à la ville, mais également pour le club de volley. On va donner son indépendance financière au club de volley. La possibilité de remplir la salle, qui est modulable, 2500 à 5000 spectateurs, mais également d'avoir un sponsoring et un côté spectacle événementiel d'un rayonnement différent de ce qu'il est aujourd'hui dans le Palais du Travail. Tout ça, ça un coût. Cette société, c'est pas une société à but non lucratif. Donc, nous achetons une prestation de service qui, effectivement, rentre dans le plan de financement de la société délégataire.
Voilà. Et on va conclure là-dessus, Bertrand Malquier, mais on reste en plein dans le sujet. Vous êtes en année électorale. On sait qu'au niveau de la mairie de Narbonne, Monsieur Mouly, Didier Mouly, a dit clairement depuis quelque temps qu'il se représenterait. Donc, vous êtes, j'imagine, déjà en campagne électorale en tant que secrétaire de Nouveau-Narbonne. La dernière fois, on a vu comment ça s'est passé. Nouveau-Narbonne gagne la mairie et M. Bascou gagne l'agglomération. Peut-être que vous-même, au niveau de Nouveau-Narbonne, aviez mal préparé cette après-élection municipale et peut-être aussi que, comme dirait un certain ancien président, vous allez tirer les leçons du pouvoir et dans votre prochaine campagne municipale, vous allez faire une place plus évidente à l'agglomération. Et ça sera la conclusion.
C'est effectivement le cas. On tire toujours une expérience des erreurs que l'on a commises par le passé avec Didier Mouly. Alors moi, ça fait 12 ans que j'étais secrétaire général à 28 ans de Nouveau-Narbonne. J'ai connu trois présidences différentes, celle de Michel Monnier, celle du duo Didier Mouly-Michel Monnier et celle de Didier Mouly depuis 10 ans maintenant. Cette campagne, on avait évoqué, mais en mélangeant dans les sujets municipaux, des sujets d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, on veut, parce que ça a marqué les esprits quand même, cette campagne de 2014, et ce résultat avec une opposition municipale de la ville-centre qui gouverne sans réelle majorité une agglomération, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui, malgré la publicité politique qui en est faite. Nous allons, pour la première fois, parce que ça n'a jamais existé, faire une véritable double campagne. Une campagne pour les municipales et une campagne de projet fédérant les communes, la ruralité, le littoral et la ville-centre, qui ne peut pas être exclue de la gouvernance. À partir de cet été, il y aura, à la découverte des électeurs, bien deux programmes d'adhésion. L'un pour la mairie, étroitement lié, bien sûr, à celui pour l'agglomération qui dépassera les frontières urbaines.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci Bertrand Malquier. On va terminer sur ce scoop. Il y aura dorénavant une double campagne. Peut-être que vous allez créer une jurisprudence, si je puis dire.
Jurisprudence politique.
Une nouvelle mode adaptée, justement, à une situation qui elle-même est assez boiteuse. On s'en aperçoit de temps en temps. Il y aura donc, vous êtes aujourd'hui Bertrand Malquier en campagne, mais vous êtes, sachez-le bien, en double campagne. Prochaine invitée de ce Radio Barque, eh bien, ça sera Guy Sier, maire de Fleury. Un petit peu plus tard, Monsieur De Vic, alors maire de Cave et président du PNR. Et puis, on retrouvera d'autres maires et responsables politiques de la Narbonnaise et des Pyrénées-Orientales, puisque nous aurons également Monsieur François Lieta, le Républicain, dans les prochaines semaines. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci à tous les deux.